France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
On est du verbe naître dans une famille de gauche, semble-t-il, ou on est du même verbe dans une famille de droite. Ensuite, est-on de gauche, est-on de droite, et toute sa vie, eh bien, ensuite les jeux peuvent se brouiller, bien sûr. Et du reste, la gauche, comme la droite, aime brouiller elle-même les cartes. Nous sommes tous des êtres latéralisés. En France, la nation est une création républicaine, et il nous reste donc à visiter, historiquement, la notion de gauche, de droite. Et qui dit gauche et droite sous-entend un centre. De visiter cela à travers les témoignages de femmes et d'hommes, de gauche, de droite, de droite, de gauche. Première diffusion sur France Culture, le 29 février 1996.
Lieu de mémoire, la gauche et la droite, sœurs ennemies et jeux brouillés. Une émission de Marc Riglet, réalisation Marie-Christine Clauset.
Homme de gauche, l'intelligence.
Homme de droite, la culture.
La lucidité.
Les tabous.
L'ivraie.
Le bon grain.
Les idées.
Les faits.
Jean-Jacques.
Rousseau.
La morale.
Le devoir.
Le devoir.
La moralité.
Le droit.
Le devoir.
Le mérite.
La naissance.
La pauvreté.
La fortune.
Les contestations.
L'autorité.
Le fanatisme.
La foi.
C'est avec tout ça qu'on fait la France. C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. La France, c'est tous les Français.
La droite se définit par rapport à la gauche et celle-ci par relation avec la droite. Aucune famille d'esprit n'est absolument à droite ou simplement à gauche. Elle est plus à droite ou moins à gauche que telle autre. Ainsi s'explique qu'on puisse simultanément paraître à droite pour les uns et à gauche pour les autres. Droite et gauche sont des modalités d'une lecture d'ensemble, les éléments constitutifs d'une structure globale. René Raymond.
Lorsque par un bel été de 1789, la gauche et la droite s'inventèrent et s'offrirent comme métaphore spatiale de la politique, nul ne songeait à leur bonne fortune et au destin universel qui leur était promis. Fruit du hasard, donc, il fallait bien pourtant que la droite et la gauche fussent un peu filles de la nécessité pour qu'elles deviennent si vite et si durablement les pôles d'identification de nos sensibilités politiques. Mais ce qui reste le plus surprenant, c'est que la gauche et la droite au singulier survivent à l'évidence de leur manifestation plurielle, comme si, une fois n'étant pas coutume, la droite et la gauche ne perdaient pas en intensité ce qu'elles gagnent en diversité. Et puis, il faut noter ces étranges phénomènes de brouillage qui font qu'un jour une valeur de gauche passe à droite et réciproquement, ou encore ces rejets de la gauche et de la droite par ceux qui en dénoncent les effets mystificateurs, ou enfin ces dénégations de la gauche et de la droite par ceux qui chantent les vertus et le confort du centre. Bref, ainsi malmenée depuis 200 ans, la gauche et la droite auraient normalement dû succomber. Et pourtant, elles sont là, sorties indemnes de leur jeu brouillé et promises sans doute à un bel avenir, sinon à l'éternité.
«
Guy Rossinandi.
Moi, j'ai tendance à penser que, nous allons sans doute y venir, que la droite et la gauche sont des vues de l'esprit. Alors, peut-être est-on plus précis quand on parle des droites et des gauches. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut, dans ces conditions, expliquer que dans la droite bonapartiste, il y a quelques éléments populistes qui peuvent faire penser à la gauche. Dans les gauches, les gauches n'ont pas trouvé leur historien, comme René Raymond l'a été des droites. Mais bon, en gros, il y a la gauche communiste, la gauche socialiste ou social-démocrate, et puis la gauche laïque, républicaine, radicale. Bon, entre la gauche radicale et la droite orléaniste, les différences sont infinitésimales. Donc il est peut-être moins imprécis de parler au pluriel, mais en même temps, en parlant au pluriel, on perd l'utilité opératoire du concept. Le colonialisme est plutôt né à gauche, indéniablement. C'est Jules Ferry. C'est au début de la Troisième République, une poignée d'hommes politiques. Il n'y avait pas que, il y avait aussi un certain nombre d'hommes d'affaires qui voulaient gagner de l'argent, il y avait des religieux qui voulaient évangéliser, il y avait des militaires qui voulaient conquérir de nouvelles zones d'influence. Mais enfin, en gros, la colonie française s'est faite grâce à Jules Ferry. Bon, dans l'indifférence du plus grand nombre, dans l'indifférence ou l'hostilité.
Ou l'hostilité. Ferry-Tonkin. Exactement. L'expédition en Indochine.
L'expédition d'Indochine, il y a une fausse nouvelle qui arrive. On croit qu'une garnison a été massacrée à Long Sen et Jules Ferry est renversé. Bon, Clémenceau se mobilise contre lui avec toute son énergie. Bon, cette colonisation était surtout contestée par l'extrême droite. Par Paul Déroulède, par la droite nationaliste, disons. Déroulède s'écrit à la tribune de la Chambre des députés « J'ai perdu deux filles, l'Alsace et la Lorraine, et vous m'offrez 20 domestiques ». Bon, ce qui prouve d'ailleurs comment on voyait la colonisation à l'époque. Autrement dit, pour les nationalistes, il faut préparer la revanche sur la ligne bleue des Vosges. Et puis, peu à peu, les choses se compliquent. À Bismarck, homme du 19e siècle, qui n'a pas vu l'intérêt des colonies, succède au pouvoir, dans la réalité du pouvoir, Guillaume II, qui lui veut se former un empire colonial. Des affrontements se passent au Maroc, notamment entre l'Allemagne et la France, et l'on finit par comprendre que l'on peut préparer la revanche ailleurs que sur la ligne bleue des Vosges. En 1930, après la guerre de 14-18, où les colonies ont joué un rôle important, il y a cette exposition coloniale qui sera visitée par des millions de Français. C'est l'époque de Pépé le Moko. Chacun, enfin, a intégré la notion d'empire. C'est la phrase de Paul Reynaud en 1939 encore. « Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts », qui montre l'énorme empire français, l'énorme empire britannique uni contre la pauvre petite Allemagne, même agrandie de l'Autriche. Et à ce moment-là, tout le monde, toute catégorie mélangée, soutient l'Empire, sauf, c'est vrai, l'extrême-gauche, les communistes, qui ont été les premiers à ruer dans les brancards. Et puis, la décolonisation confirme complètement ma thèse, c'est-à-dire qu'elle va se faire de façon largement improvisée. La gauche va plutôt freiner la décolonisation avec Guy Mollet, Robert Lacoste, souvenez-vous de l'expédition de Suez. Et en définitive, c'est le général de Gaulle, homme de droite, Saint-Cyrien, militaire de carrière, qui va amener les couleurs sur la plupart des territoires français. Donc la colonisation est un exemple parfaitement représentatif de ce qu'on ne peut pas dire que ce soit la gauche ou la droite qui a été pour ou contre la colonisation.
Moi, j'ai été foncièrement anticolonialiste.
François Colbert.
Et je me souviens de mon livre de géographie d'école primaire, où l'on distinguait dans l'empire colonial les colonies de peuplement et les colonies d'exploitation. Je dirais a posteriori que toutes les colonies étaient des colonies d'exploitation, aussi bien l'Afrique du Nord que l'Afrique occidentale ou équatoriale française. Donc, j'étais sympathisant plutôt de la révolution algérienne. À ce moment-là, j'ai décidé, surtout lorsque Guy Mollet a envoyé le contingent d'Algérie, de rendre ma carte de SFIO.
Vous avez le sentiment que quelque chose est brisé, là ?
Oui, certainement, oui. Je trouve que la SFIO a fait fausse route, clairement.
Quand reprenez-vous espoir ?
Je reprends mon adhésion au parti, à un parti politique lorsque un collègue, professeur d'école normale à Saint-Brieuc, et qui s'appelle Antoine Mazier, a créé le Parti Socialiste Autonome, lequel s'est transformé au bout de peu de temps en PSU. Mais je me suis rendu compte, au bout de peu de temps, que ce parti avait tendance à devenir un groupuscule politique. Et j'ai applaudi la réunification, c'est peut-être pas le mot, la reconstitution, la refondation du Parti Socialiste sous la houlette de François Mitterrand au Congrès d'Épinay.
Et pendant toute cette vie à gauche, pour vous, que représente la droite ? Est-ce que ce sont des adversaires ? Est-ce que ce sont simplement des partenaires dans un jeu concurrentiel, démocratique ?
Ni l'un ni l'autre. Ce que je désapprouve, moi, c'est l'alliance du sabre et du goupillon pour exploiter le prolétariat, qu'il soit français ou qu'il soit colonial. L'alliance du goupillon et du sabre, soutenue, appuyée, financée par la bourgeoisie.
Jean Cassou est homme de droite, sans chercher à le dissimuler. La décolonisation ne lui paraissait sans doute pas d'une urgente nécessité, et en tout cas, il n'est pas prêt à mettre la fin du conflit algérien au crédit du général de Gaulle.
Il revient en 58 pour...
Pour régler la question algérienne.
Pour régler
alors,
la question algérienne,
à ce moment-là, vous êtes pour l'Algérie
alors,
française ou
bien
pas ?
Bien sûr, je suis pour l'Algérie française, parce que tout bêtement, on m'a appris que l'Algérie était composée à l'époque de 3 départements et qu'on n'aliénait pas une partie de la France. Bon, sauf sous la contrainte, comme ce fut le cas en 1871, au traité de Francfort. Bien. Et alors, il se fait élire et il accepte le pouvoir pour sauver l'Algérie française, alors que les socialistes étaient pour Monsieur Mollet avait fait entre-temps l'expédition de Suez en 56 pour sauver, donner un coup aux populations de l'Afrique du Nord.
À la rébellion.
À la rébellion de l'Afrique du Nord, la Tunisie. Et bien sûr, il proclame des choses, l'Algérie, etc., restera française, il l'a dit 2 ou 3 fois, pas trop souvent. Et par la suite, il continue la mobilisation des classes, du contingent. Il en meurt, bien sûr. Et un beau jour, c'est l'Algérie algérienne. Alors,
vous avez le sentiment d'avoir été trompé.
On a l'impression d'avoir, excusez-moi du terme grossier, coquifié largement.
C'est peu de dire donc que les jeux sont brouillés. Raoul Girardet, ô combien connaisseur du nationalisme et des droites françaises, Raoul Girardet qui s'engagea dans la résistance et beaucoup plus tard du côté de l'Algérie française, Raoul Girardet situerait-il ce dernier combat-là à droite ?
Non, ça absolument pas. Absolument pas. Je dois dire, si vous voulez, en toute honnêteté, que j'ai connu des gens de gauche qui étaient de mon bord. Et j'en ai connu notamment Parti Socialiste, si vous voulez. Il y a eu un moment, même à la fin, où Guy Mollet nous paraissait un personnage admirable, si vous voulez. Mais c'est pas ça. Ce qui a compté, ça a été la résistance. L'idée que j'ai vraiment vécu cette période comme une sorte de prolongement de la résistance. Et d'ailleurs, ça a abouti au même résultat, puisque je me suis retrouvé en prison. Je dois dire d'ailleurs que la prison gaulliste était plus agréable que la prison allemande et que ses suites. Mais le résultat était le même, mais le point de départ était exactement le même. Ça avait un aspect de protestation, que je suis tout prêt d'ailleurs à vous expliquer, car autant je ne défendrai pas ma jeunesse maurassienne, autant ça je serai ferme sur mes principes.
Vous y tenez. Quelle valeur était en jeu là? La parole donnée, l'honneur,
beaucoup de choses. D'abord, tout simplement, d'abord la patrie, si vous voulez. Et c'est bête de dire ça maintenant, ça paraît bête, mais ça ne l'est pas pour moi, en tous les cas. Mais c'était l'idée que, effectivement, il s'agissait d'un territoire national qui me paraissait peut-être sottement équivalent au reste du territoire national, et donc qu'il fallait défendre, après tout, mes parents s'étaient battus pour la récupération de l'Alsace et la Lorraine. Mes grands-parents, je ne sais pas s'ils étaient battus, mais enfin, ils devaient être pour. Donc, je devais continuer, probablement, à vouloir défendre ce qui était le territoire national.
Mais vous qui étiez un spécialiste, un notoire, reconnu du dénationalisme, comment gériez-vous cette évidente contradiction de deux nationalismes qui s'opposent?
Non, mais ça, il faut pas croire alors là que nous étions tous complètement idiots quand même. C'est pas vrai.
C'est si pas ce que j'ai voulu dire.
Non, mais je sais bien, c'est pas ce que je voulais dire. Mais en vérité, et je suis allé en Algérie quand même. J'ai même fait une période militaire en Algérie, ce qui vous montre mon engagement. Nous pensions très bien à ce que pouvait être précisément le mouvement de révolte d'un jeune Algérien. Mais ce mouvement de révolte, nous étions tout à fait pour une transformation profonde et globale de l'Algérie. Ce n'était pas l'ordre colonial que nous pensions défendre, bien que peut-être dans la pratique on pouvait penser que ce fut l'ordre colonial. Mais c'était l'idée au contraire d'une Algérie nouvelle. L'idée que c'était une grande tâche à accomplir. Que la grande tâche de notre génération, c'est précisément de remodeler l'Algérie, que la France avait un immense chantier et que ce chantier était un chantier algérien. Alors il y avait probablement là beaucoup d'aventures. Il y a partait peut-être cette idée que l'idée très gaullienne d'ailleurs que la nation ne peut se définir que par une grande entreprise. Alors que c'était notre grande entreprise. Alors que bien sûr il y avait les Algériens nationalistes et qu'ils avaient peut-être raison, ceux-là, d'être nationalistes. Je me suis dit qu'il y avait aussi beaucoup d'Algériens, et je pense qu'ils étaient la majorité, qui ne l'étaient pas, mais qu'il fallait transformer l'Algérie, qu'il fallait donc se battre pour conserver l'Algérie et faire de l'Algérie une sorte d'immense chantier où se retrouveraient tout en quelque sorte face à une espèce de France embourgeoisée et moribonde, où se retrouveraient toutes les forces vives, toutes les forces actives de la nation.
Il y a un esprit de droite et un esprit de gauche. Il y a des cerveaux de droite et des cerveaux de gauche, des structures spirituelles de droite et des structures spirituelles de gauche, au même titre que les biologistes distinguent les dolichocéphales et les brachycéphales. Jean Labasse.
Homme de gauche, enfant naturel, veut être de son temps, soupire après des lendemains qui chantent. Théorique et abstrait. Essaie de comprendre. Pense qu'il a tous les droits.
Homme de droite. Enfant légitime. Indifférent à la mode. Rêve du paradis perdu et croit au péché originel. Réaliste et concret. Refuse même d'envisager qu'il y ait quelque chose à comprendre. Sait qu'il a surtout des devoirs.
La nation, c'est une invention républicaine, largement. c'est en criant « Vive la nation !» que l'armée française remporte la victoire de Valmy en 1792. Et ce sont les vers de Victor Hugo aux soldats de l'an 2. Bon. Et puis, ces va-nu-pieds superbes donc portent à ce moment-là les espoirs du « peuple de gauche », entre guillemets, tandis que les royalistes espèrent que la tête de Louis XVI va être sauvée par la victoire de Brunswick. Bon. Peu à peu, l'idée de nation va évoluer, pas si vite. Au XIXe siècle, la monarchie de Juillet est très, plus unanime. Et on reproche beaucoup à Louis-Philippe, vous voyez ce roi caricaturé sous forme de poire, de baisser son froc devant les Anglais. Les républicains, à l'époque, voudraient que la France parle un langage plus fier, plus fort. Bon, tout ça va évoluer lentement, on date généralement du boulangisme, le passage à droite de l'idée de nation.
Et les choses se brouillent sous ce rapport, alors là, complètement, par exemple, à la fin des années 30. Avec Munich, où on trouve aussi bien des munichois venant de droite que des munichois venant de gauche.
Alors là, ça devient totalement incompréhensible. Alors, j'ai étudié, moi, la vie politique en France après Munich, et notamment pendant la Drôle de Guerre, et là, les clivages politiques, partisans, n'ont plus aucun sens. Il y a, en gros, deux camps, les durs et les mous. Les durs, ce sont ceux qui veulent qu'on résiste à Hitler, qui ont compris... Bon, il se trouve que l'avenir leur a donné raison, qu'ils ont compris qu'on ne pouvait pas s'entendre avec lui, qu'il fallait cesser de capituler, et qu'il fallait absolument résister à ses prétentions. Et puis, il y a les mous qui pensent que rien n'est pire qu'une guerre. Et alors, au Parti Socialiste, il y a une majorité pacifiste. Une majorité pense
conduite
qu'on peut comprendre.
Conduite par le premier secrétaire général,
par Paul Fort, qui est secrétaire général. Et Léon Blum est à la tête d'une minorité. Léon Blum, qui est plutôt pour la résistance, est à la tête d'une minorité. Mm-hmm. Vous avez évidemment la même chose dans tous les camps. Paul Reynaud, à droite, apparaît comme le partisan de la résistance, mais vous avez dans le même parti des gens comme Flandin ou d'autres qui envoient un télégramme de félicitations à Hitler au lendemain des accords de Munich.
Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux, et nous serons heureux.
Et puis le progrès, l'écologie, à gauche, à droite. Alors, l'écologie, qui pourrait douter que c'est un mouvement qui a prospéré, je dirais, sur le terreau de gauche. Et pourtant...
Mais je ne suis pas tout à fait convaincu, parce que l'écologie, c'est effectivement, moi je dirais plutôt, avant tout, une lutte contre les ravages du progrès industriel. Or, comme pendant très longtemps, l'idée de progrès a été associée à la gauche, qui en a même fait son étendard, les gens qui protestaient contre la création d'une usine nouvelle ne pouvaient pas en même temps être à gauche. Je veux dire, là, on vient de renoncer, Alain Juppé a dit qu'on ne construirait pas une ligne à haute tension. Bon, c'est une victoire des paysages, c'est sûr. C'est plus agréable de voir les Pyrénées sans ligne à haute tension, on est bien d'accord. Mais d'un autre côté, l'électricité, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure des chemins de fer, ça a quand même été longtemps une idée de gauche. Maintenant, on n'arrive plus à construire une ligne de chemin de fer. Regardez la ligne TGV Sud-Est, il y a trop de gens qui se mobilisent en disant « attention, ne touchez pas ». Ils ont raison, ils comprennent très bien, c'est désagréable de voir les paysages sacrifiés. Mais on n'aurait jamais rien fait. Si Haussmann avait dû tenir compte des associations écologistes pour percer les avenues sous le Second Empire à Paris, il y avait eu les mêmes oppositions, on n'aurait jamais pu évoluer depuis l'âge de pierre. Alors, l'industrie nucléaire, est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal? Je n'ai aucune compétence, évidemment, pour répondre à la question. Mais il n'y a pas, moi j'observe qu'il n'y a pas d'industrie qui n'ait entraîné des risques. Je veux dire, s'il y avait eu des écologistes qui en promettaient à apporter le feu sur la Terre, eh bien, on lui aurait dit, attention, c'est dangereux, et c'est vrai. Mmh. Et je pense que pour le moment, le feu a fait plus de morts que l'atome. Donc, Je crois que il y a eu des gens qui ont cru au progrès, qui ont été prêts à courir le risque un peu fou, le Concorde, se personner, tout ce que vous voulez. Et puis, il y a des gens de plus en plus nombreux maintenant qui freinent. Est-ce que les premiers sont à gauche, les autres à droite? Comment savoir? Le néon. Prenons le néon, je cite...
On peut savoir quand même si on raisonne en période historique.
Le progrès est associé à
la gauche, disons, dans le dernier tiers du 19e siècle.
Oui, c'est ça. Les cafés du progrès, les magasins au progrès, enfin, qui ont fleuri dans toute la France, sont associés à la gauche, effectivement, républicaine du dernier tiers du siècle.
Et c'est associé à l'idée de perfectibilité de l'homme. Développement de l'homme, tandis que l'homme de droite...
À la même époque, il y a le syllabus... du pape Pie IX, 1864, qui condamne les erreurs de notre temps. Et parmi ces erreurs, il y a l'idée que l'on peut améliorer la condition de l'homme sur Terre.
On peut pas vivre dans le passé. Faut abandonner tout ce qui est périmé. Les idées reçues, les pensées fanées, les morales tordues. Elle est à brouiller. Quand on a peur du progrès, on devient l'apôtre des regrets. Oui, l'apôtre des regrets. La 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 la. Quand on a peur du progrès, quand on a peur du progrès, on devient l'apôtre des regrets. La 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 tout. La 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 tout, la 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 tout, la 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 tout. Oui, l'apôtre des regrets. La la la, wouh!
La gauche et la droite, on le voit, s'emploient elles-mêmes à brouiller leurs cartes. Mais elles connaissent aussi de grands prédateurs qui prétendent rien moins que de récuser les notions mêmes de gauche et de droite. Et cette dénégation, on la trouve évidemment à droite comme à gauche. Marcel Gauchet.
Du côté de l'extrême gauche, c'est le début du XXe siècle. C'est l'apparition du Parti socialiste, c'est l'apparition du socialisme marxiste. Et ce sera bien entendu... renforcé par l'apparition du Parti communiste dans les années 1920, ce clivage est dénoncé comme un clivage bourgeois et politicien qui sert à dissimuler aux malheureux électeurs la vérité du seul clivage qui compte, qui est le clivage de classe. C'est donc la mystification d'une conversion politique du clivage de classe en une fausse opposition politique et une opposition de compères, puisque en fait la droite et la gauche c'est pareil.
Ce qui caractérise fondamentalement le rapport du communisme à la gauche, et plus généralement à la République d'ailleurs, hein, puisque c'est un petit peu la même chose, c'est je crois une authentique contradiction, hein, une vraie contradiction.
Roger Martelly.
Le Parti communiste naît à l'intérieur, je dirais, de cette longue tradition républicaine démocratique dont il incarne à certains égards l'aile la plus radicale, la gauche de la gauche. Donc il s'inscrit dans cette tradition républicaine et donc dans la gauche. Et en même temps, comme cette gauche est elle-même plurielle, comme elle est traversée elle-même, je dirais, par la tension entre deux familles, hein, famille, disons, plus sensible à la radicalité de l'engagement et celle plus sensible à l'opportunité, dirons-nous, hein, sans chercher de jugement moral dans le choix de ces deux sensibilités. Sur ce terrain, il y a de la concurrence. Et donc, il est à la fois à l'intérieur de la tradition républicaine et il éprouve le besoin, à un moment donné, de se distinguer d'une certaine manière pour créer la différence. Rajoutons à cela le fait que ce qui le conduit aussi à cette distinction, c'est une certaine lecture du marxisme, notamment telle que la Troisième Internationale, la tradition soviétique, au fond, la popularise en France, hein, c'est-à-dire une position qui se situe en critique de la démocratie dite bourgeoise. Et donc, je crois que la contradiction fondamentale, c'est cette contradiction entre une pente interne, le Parti communiste est à gauche et le sait, et en même temps, cette prise de distance qui le conduit à vouloir se distinguer du camp républicain par peur de se noyer en quelque sorte dans un ensemble dans lequel il perdrait son identification. Cette contradiction, pour moi, est fondamentale. Et cela le conduit, selon les périodes, à valoriser, j'allais dire, la culture de l'intérieur, il faut rassembler tous les républicains, ou au contraire, à valoriser la distinction en essayant de dire que parmi les républicains, il y a les bons et les mauvais républicains, et que les seuls vrais républicains, évidemment, les républicains sincères, les démocrates sincères, comme on disait à un moment donné dans la famille communiste, se trouvent du côté des communistes.
Bien sûr, il y avait le Parti communiste. Mais à part vendre des vignettes et se lever le dimanche matin, tous les dimanches matins pour vendre l'humanité, on ne faisait rien. Et à ce rythme, l'oppression capitaliste pouvait durer encore bien des années.
Dans un matin de France, à Marseille, à Brest ou à Nancy, un journal sous les toits de Paris.
Oui, bien sûr, je savais comme adhérent du Parti communiste, et on me le répétait assez, et on ne me répétait que ça, que vendre des vignettes, que vendre l'humanité et faire des adhésions, c'était faire progresser l'idée du socialisme en France.
Lorsque le Parti communiste s'installe à gauche, il entreprend, et on peut maintenant aborder la période des années 70, il retient une stratégie dite d'union de la gauche. Alors, il peut être tout à fait à l'initiative d'une entreprise de cette sorte, c'est ce qu'on a vu dans les années 60. Et puis ensuite, il lui arrive de revenir tout d'un coup, de se dire, mais au fond, est-ce que c'était la bonne stratégie? Alors, on peut peut-être évoquer, c'est donc là, on est dans la période très contemporaine, cet aspect particulier de la relation que le Parti communiste entretient avec la gauche, cette fois donc sous le rapport d'une union qu'il appelle de ses voeux, mais qu'ensuite, il rediscute, pour ne pas dire reconsidère, pour ne pas dire encore renie.
Le problème pour lui, il a été à deux niveaux. À mon avis, hein, il a été à deux niveaux. Le premier, c'est que ben, d'abord, il réussit. C'est-à-dire que le Parti socialiste, qui refusait jusqu'alors de signer le programme commun, ben, finalement, le signe. Donc, le Parti socialiste devient copropriétaire du programme commun. Comment faire alors la distinction auprès de l'opinion? Puisque communistes et socialistes sont propriétaires du même objet, le programme commun. Premier problème. Donc, il a désormais, sur le terrain d'une dynamique sociopolitique forte, ben, il a un concurrent immédiat. Un Parti socialiste qui, en plus, réussit à se transformer avec beaucoup de talent, sous l'impulsion, évidemment, de François Mitterrand. Et le dernier élément, ben, c'est le Parti communiste a fait la preuve d'un très fort dynamisme, mais du point de vue de sa culture politique. Il reste ancré dans le modèle soviétique. Du point de vue de sa forme de fonctionnement, il reste ancré dans la vieille forme de parti, qui était la forme du parti bolchevique stalinisé, je dirais, des années 20, des années 30. Et de ce fait, s'installe une contradiction entre les tentatives de renouvellement qu'il esquisse, par exemple, sur le terrain de la démocratie, et ce qui est sa propre forme politique.
Et puis, à droite,
Marcel
le
Gaucher.
Discours est très différent, et il correspond là aussi au début du XXe siècle, à ce phénomène qui a été bien décrit déjà par des historiens comme Raoul Girardet, qui est la captation de la nation par la droite et par l'extrême droite, qui est le moment où cette idée anciennement de gauche, qui était le nationalisme, le patriotisme, devient la valeur de la droite et surtout de l'extrême droite. Et donc la nation, elle se définit par l'unité. Au regard de la vérité substantielle de cette unité nationale, le clivage politique est un artifice qui réunit en fait dans un jeu de compères, là aussi, les forces de dissolution que sont d'une certaine manière le capitalisme, la bourgeoisie d'argent et ses alliés divers, parmi lesquels, bien entendu, à l'époque, on ne manque pas de faire une large place aux Juifs, et d'autre part, les agitateurs socialistes. Donc, des deux côtés, en fait, l'artifice du clivage politique est dénoncé au profit d'une vérité sociale plus profonde, qui est très différente, évidemment.
Vive les camelots du roi, ma mère, vive les camelots du roi. Ce sont des gens qui se foutent des lois. Vive les camelots du roi, et l'on s'en fout. À bas la République, et l'on s'en fout. La gueuse et de ses voyous.
Il faut savoir ce qu'a pu représenter l'action française, effectivement, dans les années qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale.
Raoul Girardet.
Où apparemment les motifs d'adhésion étaient à peu près les mêmes. Le recrutement social, si l'on peut parler de recrutement social, était relativement divers. Il se situait dans une moyenne bourgeoisie, avec quelques éléments venant d'origine, je n'ose pas dire populaire, mais petite bourgeoise. Je ne crois pas que c'ait eu, en fait, beaucoup d'importance. Ça se manifestait surtout, je crois, l'adhésion se manifestait surtout par un phénomène de refus. ce qui me paraît avoir caractérisé l'ensemble de ces jeunes gens, je parle de cette génération, parce qu'il faudrait faire une très grande différence entre les générations. C'était une sorte de refus de l'ordre existant, de refus, en quelque sorte, de la République radicale, dans tous ses aspects qui pouvaient être politiques, idéologiques, sociaux. C'était une façon de dire non. Alors, il y avait une autre façon de dire non. Ça aurait été de se situer à l'autre opposé, de se situer au Parti communiste, avec lequel d'ailleurs nos camarades, puisque j'étais encore lycéen, enfin où j'étais à la fois en lycéen puis ensuite en Hippocagne, nous entretenions d'assez bonnes relations. C'était le milieu qui nous dérangeait, enfin que nous n'aimions pas. Mais les communistes étaient plutôt des copains. Mais il y avait la patrie, il y avait la nation. Ces rouges, c'était ce qui nous dérangeait, ce n'était pas qu'ils étaient rouges, mais ce qui nous dérangeait, c'était que, apparemment, je dis bien apparemment, ils n'aimaient pas la nation, la France, l'armée, alors que nous aimions la nation, la France et l'armée, et que nous avions le sentiment, qui après tout n'était pas tellement contraire à l'histoire, et que la nation et la France se trouvaient en péril.
J'aimerais évoquer le moment de la désillusion. Vous l'exprimez sous cette forme. Vous dites, au fond, l'action française, on ne pouvait qu'être frappé par l'extravagante violence du discours utilisé et la non moins étonnante pusillanimité, oui, des formes d'action proposées.
Alors ça a été la première désillusion qui est antérieure à la guerre, qui était partagée d'ailleurs elle aussi par beaucoup de mes camarades. C'est que tout cela poussait des cris très forts. On vouait à la mort régulièrement la gueuse, qui était la République, son personnel. Et puis, en fait, l'action était réduite à rien. Ça consistait à vendre l'action française le dimanche sur le parvé des églises, qui ne représentait pas, évidemment, une action révolutionnaire, alors que c'est ce que nous attendions. Enfin, nous aurions voulu, si vous voulez, que l'attitude soit conforme avec la véhémence, en quelque sorte, du propos.
Et puis Charles Maurras à l'Académie française, ça vous désole, finalement.
Oui, ben oui, c'était un peu triste. Enfin, c'était pas comme ça qu'on le voyait. Enfin, on le voyait, à la rigueur, porté en triomphe par des révoltés et, au milieu des barricades et au milieu des décombres d'une ville incendiée. C'est comme ça que nous l'imaginions. Et ce qui a été la rupture avec l'action française, mon cas n'est pas le seul, sinon ça n'aurait aucun intérêt individuel, mais ça se situe, je pense, au mois de juillet 40, où j'étais mobilisé, où j'étais encore soldat, et où c'était après la signature de l'armistice, et où j'ai acheté l'action française, parce que nous arrivions dans une ville, et je me sentais encore que militant, et je suis tombé sur deux choses. D'abord, un texte de Maurras que je trouvais, là encore, déplorablement mou par rapport à la situation, mais ensuite un petit texte qui était ainsi intitulé « Les Français, enfin chez eux ». Je veux dire que c'était assez affligeant. Et qu'ensuite, je n'ai cessé d'aller d'affliction en affliction, comme d'ailleurs un certain nombre de mes camarades. Et que, tout naturellement, étant des activistes probablement beaucoup plus en pensée ou en rêve qu'en acte, nous avons été plus près que d'autres, probablement, à devenir de vrais activistes, ou enfin, à supposer que nous étions de vrais activistes. Et c'est très curieux, c'est combien l'action française, souvent dans cette génération, car il y a un problème, si vous voulez, qui touche probablement la notion de droite-gauche, très profondément, un problème de génération. L'action française a fourni à la génération antérieure beaucoup de pétinisme, enfin ça n'a rien d'étonnant, il faudrait savoir comment on est pétiniste, le terme n'a pas grand-chose, mais a fourni quand même un certain nombre de collaborateurs. Je dois dire que dans ma propre génération, en dehors d'un cas, je n'en ai pas connu un seul.
Un camarade m'a dit un jour, il y a longtemps, il faut coucher avec les femmes de son milieu. Cela m'a beaucoup choquée. J'ai senti que je pensais exactement le contraire et que j'étais de gauche comme lui de droite. Emmanuel Berle.
Il y a le couple gauche-droite qu'on récuse, il y a les thèmes qui passent de gauche à droite ou de droite à gauche, et puis il y a aussi les gens. À son fils, qui vote pour la première fois et demande conseil, le père, vieux paysan languedocien, répond « Prends le bien rouge, car après, il déteigne ». La gauche et la droite, ce sont donc aussi des itinéraires individuels que l'on parcourt sans parfois, cependant, accepter de s'identifier à l'un de ces pôles. Dominique Jamais.
Si j'étais de droite, je vous le dirais. Si j'étais de droite, je n'aurais pas honte d'être de droite, et je suis depuis longtemps, je ne dirais pas depuis toujours, mais presque, exaspéré ou agacé simplement, ou amusé dans les bons cas par le fait que beaucoup de gens de droite, qui sont de droite, authentiquement de droite, ne disent pas qu'ils sont de droite, ou disent qu'ils ne sont pas de droite, ou disent est-ce que ces notions ont encore un sens ? Bon, si j'étais de droite, je vous le dirais. Ben, je ne suis pas de droite, je suis désolé de vous décevoir, je ne sais pas si je réponds ainsi à votre attente ou à votre question, et je vais vous expliquer ce que veut dire cette réponse, qui n'est pas justement la dérobade que je dénonçais. Il y a un bon bout de temps, j'avais répondu au questionnaire d'une revue dirigée par Philippe Éduit, et j'avoue que je ne me rappelle même plus, vous voyez, c'est il y a 20 ans, 25 ans, je ne me rappelle même plus le titre de cette revue.
En tout cas, le questionnaire, c'était « Êtes-vous de droite ?»
Le questionnaire était le suivant « Êtes-vous de droite ?» Il y avait 100 questions qui étaient calculées de telle manière que si on répondait positivement aux 100 questions, on était à 100% de droite. Mmh. Si on répondait négativement, on était à 100% de gauche. Je me suis retrouvé, si je me rappelle bien, à quelque chose comme 55% de droite et 45% de gauche. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que je ne fais pas partie des gens qui savent en essence, si j'ai bien compris, si je les entends bien, qu'ils sont de gauche ou de droite.
Soit vous êtes ni de gauche ni de droite, mais enfin, lorsque en 88 vous votez pour François Mitterrand, cela provoque, comment dire, une certaine surprise.
François Mitterrand s'est inscrit lui-même dans une position différente à partir de 83 de celle qui avait été la sienne en 81. En d'autres termes, et pour reprendre la célèbre image d'Edgar Faure, ce n'est pas moi qui ai changé, ce sont les chevaux de bois qui ont bougé. Le président Mitterrand, en 88, est l'homme de l'ouverture, de la France unie, de la réconciliation entre les Français. Donc, ce n'est pas l'homme du programme commun, des nationalisations et du gouvernement socialo-communiste. Voilà pourquoi je lui en ai donné acte, si j'ose dire, si je peux me le permettre, si je peux me permettre cette formule. En 88, je me sentais plutôt en phase avec lui, alors que je ne l'étais pas entre 81 et 83, 84. Ce qui débouche d'ailleurs sur une autre question, que je retourne à l'histoire. Est-ce que François Mitterrand était de gauche ? Est-ce qu'il était de droite ? Moi, je vous dirais plutôt, là encore, si vous me le permettez, que je me sens assez proche de lui, en ce sens qu'il ne devait pas être entièrement de droite, mais il ne devait pas être entièrement de gauche non plus. Hein. Il avait des aspects de sa personnalité qui étaient proches de la filiation de la droite, et puis d'autres qui étaient proches de la gauche, ou proches de l'histoire de la gauche, ou proches de la sensibilité de la gauche. On n'est pas des bœufs.
Hein ? Ouais. Alors donc, on ne dira pas que vous passez à gauche, puisque ça supposerait qu'on ait identifié le point de départ et le point d'arrivée comme étant la droite d'un côté et la gauche de l'autre, alors que vous discutez ce point-là.
Je ne le discute pas, je le conteste. Oui, oui. Je vous répète qu'en 88, tout soutenu qu'il était par le Parti Socialiste, Mitterrand ne m'est pas apparu comme l'incarnation de la gauche éternelle.
Bon. Et donc, je n'emploierai pas cette expression « passer à gauche », mais je vous interrogerai sur la situation dans laquelle vous allez vous trouver. Car vous n'êtes peut-être pas passé à gauche, mais vous voilà un peu du jour au lendemain en train de fréquenter, comme on dirait, d'un point de vue mondain, des gens que vous n'aviez pas jusqu'alors naturellement rencontrés sur votre route. Alors, comment avez-vous vécu cette espèce de transposition dans ce qui était quand même une forme d'autre monde lorsque vous vous retrouvez investi de responsabilités dans le monde culturel, en plus, qui est une sorte de vivier d'hommes de gauche, d'intellectuels?
Je l'ai vécu 9 fois sur 10 dans la consternation, pour deux raisons. J'ai rencontré soit des braves gens, soit des gens qui étaient moins de braves gens, qui me disaient, les braves gens tout à fait clairement, ou les moins braves gens en substance, la chose suivante. On pensait que vous étiez un salaud, une ordure, un connard, et que sais-je encore, puisque vous étiez un homme de droite. Mais Dieu merci, on s'aperçoit que vous n'êtes rien de tout cela, maintenant on peut vous le dire, me disait-il. Oh, comme vous êtes intelligent, comme vous avez du talent, comme vous êtes quelqu'un de généreux, vous êtes des nôtres. Ça me consternait. Bon, ensuite, deuxième élément de consternation, ayant effectivement fréquenté la gauche, d'ailleurs, ça mène, me semble-t-il, à une réflexion intéressante. Ayant fréquenté la gauche ou les gens de gauche pendant de longues années, entre 88 et 94, disons, j'ai constaté que la gauche était très largement le royaume de l'imposture, de la générosité générale, mais de l'égoïsme particulier, de l'arrivisme, de l'ambition, du confort intellectuel et matériel, et la fréquentation des gens de gauche, de près, m'a plutôt déçu. Or, cela dit, ça ne réhabilite pas les gens de droite. Qu'est-ce que c'est la droite? C'est l'égoïsme, l'étroitesse d'esprit, la bêtise à front de taureau. Hein. Donc, ayant fréquenté les deux camps, je les renvoie un peu dos à dos, chacun avec ses qualités et ses défauts, parce que la droite a également des vertus. Mais
si je vous arrête à ce moment-là et remarque que là, ce que vous venez de dire est la marque, je dirais, d'un profond pessimisme sur la nature humaine, et que certains qui étudient ce qu'on appelait tout à l'heure la l'essence de l'homme de droite, eh bien, comme par hasard, il leur arrive de dire ah ben voilà, un homme de droite, c'est quelqu'un qui a une vision pessimiste de la nature humaine.
Ça n'est pas faux. C'est sûrement un critère. Mais je vous répondrai du tac au tac la chose suivante. Et je reviens à cette notion de générosité générale. L'homme de gauche, l'intellectuel de gauche, l'homme politique de gauche, il se présente en public comme une espèce de nouveau Rousseau, de belle âme, de belle conscience, de quelqu'un qui dit « Ah, comme la nature est belle, et la nature humaine en particulier, comme l'homme est beau, comme il est bon, comme il est généreux, la classe ouvrière sublime, même le petit bourgeois, on peut le réhabiliter, l'homme est bon ». Puis dans la réalité, on s'aperçoit que généralement, ce sont des gens, je vous le répète, vous me questionnez là-dessus, je vous réponds là-dessus, ce sont des gens qui sont plutôt accrochés au pouvoir, au confort, à l'inégalité, aux prérogatives, et qui mentent en privé par rapport à ce qu'ils disent en public. Or, à l'inverse, il est de fait, je l'ai souvent constaté à droite, malgré ce que je disais sur le conservatisme, l'étroitesse d'esprit, etc., il est de fait que l'homme de droite, le politicien de droite, l'intellectuel de droite sont des pessimistes. Sont des méchants, sont des misanthropes, généralement parlant. Et que cela dit, on constaterait plutôt plus de générosité individuelle et de bonté individuelle à droite qu'à gauche. C'est très difficile de faire une statistique, une étude, avec toutes les nuances que vous voudrez, mais ça fonctionne plutôt comme cela, me semble-t-il. Précisons-le, j'ai rencontré aussi à gauche, non, parce que vous voyez, je vous réponds très spontanément, très directement et très rapidement. J'ai rencontré aussi à gauche, et on en voit tous les jours, des gens qui sont de gauche en public et même dans leur cœur. Mais disons que j'en ai vu beaucoup d'autres qui n'étaient pas du tout de cette espèce-là.
Homme de gauche, le jeu de boules.
Homme de droite, le bridge.
Le pastis.
Le whisky.
Le whisky.
Le champagne.
La bouffe.
La gastronomie.
L'optimisme.
Le pessimisme.
Hegel.
Aristote.
Le travail.
Le capital.
Gérard Mauger.
J'ai enquêté en fait sur ces mouvements contre-culturels. Ce dont je me suis aperçu, c'était que la plupart de ceux qu'on trouvait en contre-culture étaient d'anciens gauchistes, des reconvertis récents. Le gauchisme, c'est les gauchismes. Il y a effectivement des constellations différentes. À l'époque, les trotskistes, les maoïstes, les anarchistes et tout ça se retrouvent en quelque sorte en rupture de banc de leurs organisations et amorcent un mouvement de reconversion idéologique, politique, et aussi inscrit dans leur vie. C'est aussi important cet aspect-là. C'est-à-dire que pour ce qui était de la contre-culture, on voyait des gens qui, après tout, avaient quitté la ville, avaient quitté leurs études, avaient quitté leur métier dans certains cas, et entreprenaient une nouvelle vie, se recyclaient dans ce que j'avais appelé à l'époque le néo-commerce, le néo-artisanal, le néo-ruralisme, le néo-paysan, hein, à l'enseigne du parallèle, tous, parce qu'ils n'étaient quand même pas des paysans comme les autres, des artisans comme les autres, etc. Hein,
bon, alors, pourquoi était-il gauchiste avant ?
Alors, première question, c'est comment rendre compte du phénomène gauchiste ? Moi, j'ai proposé deux schèmes d'interprétation dont j'ai conscience de leur caractère insuffisant, mais qui indiquent au moins quelque chose, il me semble, en tout cas, qui aurait à voir avec une explication sociologique. Le premier, c'est classique, c'est le schème de l'effet d'âge. C'est au fond, c'est un mouvement de jeunesse, après tout. Mai 68, voilà. Bon, d'ailleurs, si on regarde d'autres grands mouvements historiques comme ça, de ce genre-là, il y a aussi cette caractéristique-là de l'âge, on la retrouve presque à tout coup, quand même. C'est des gens jeunes, des résistants aussi, c'était des jeunes, par exemple. C'est pas ce qu'on dit, mais enfin, c'est vrai. Donc, comment comprendre, après tout, est-ce que ça n'a pas une incidence spécifique, ce caractère de la jeunesse ? Moi, je crois que oui. La jeunesse, en tout cas sociologiquement pensée, hein, c'est-à-dire comme un état de transition entre l'enfance et l'âge adulte, comme un ni plus enfant, mais pas encore adulte, avec tout ce que ça comporte à mes yeux, comme moi j'ai défini ça, comme un état d'apesanteur sociale et familiale relative, comme un état d'indétermination spécifique, comme aussi l'âge des classements, mais des classements qui vont s'opérer, qui ne sont pas encore opérés, comme un âge d'incohérence statutaire, etc. Tout un ensemble de caractères, je n'ai pas le temps de développer là, mais enfin, qui me semblent propres à la situation de jeunes et qui peuvent, à mon avis, rendre compte, au moins pour partie, de bien des aspects hein, du caractère sociologiquement jeune de ces mouvements. Bon, mais c'est trop général ce que je dis là, évidemment, parce que ça s'appliquerait à des tas d'autres mouvements, hein, et pas seulement en 68. Donc il faudrait comprendre pourquoi 68. Alors, il y a une autre hypothèse qui a été avancée par les sociologues qui s'en sont un peu préoccupés, par Bourdieu, d'ailleurs, je crois essentiellement celle-ci, c'est l'hypothèse du déclassement. Hein, c'est-à-dire l'idée d'un déclassement structural qui affecte une génération étudiante qui arrive sur le marché universitaire ou qui sort du marché universitaire à cette époque-là. Il dirait, voilà, alors ça c'est aussi un thème classique hein, qu'on trouve chez les historiens. Chartier montre ça aussi, c'est le thème des intellectuels frustrés. En fait, il y a au moins trois formes de déclassement qui me semblent intéressantes à voir. Et qui, c'est le déclassement classique par le bas, hein, c'est des enfants qui sont en chute libre, qui descendent de milieux bourgeois et qui ont raté leurs études, par exemple, et qui sont dans une situation difficile. Il y en a un certain nombre qui sont sur ce type de trajectoire déclinante. Il y a ceux qui sont en trajectoire ascendante. Il y en a un certain nombre qui correspondent très bien à ce type de profil aussi, qui sont, vous voyez, des intellectuels de première génération. Hein, mais mal à l'aise comme tous les intellectuels de première génération parce qu'ils atterrissent dans un monde qui n'est pas vraiment leur, en porte-à-faux, etc. Bon, c'est, vous voyez, des gens à histoire et qui font des histoires quoi, ouais, parce qu'ils ne sont pas à leur place quoi. Ils sont mal à leur place. Bon. Et puis, il y a les déclassés au sens où je l'indiquais tout à l'heure, cette espèce de déclassement structural induit par l'inflation d'évaluation des titres scolaires, hein, c'est-à-dire au fond les gens qui ont l'impression d'avoir été payés en mauvais médecin, de ne pas être reconnus pour ce qu'ils valent, c'est-à-dire ce que valait antérieurement leur titre. Voilà, donc je crois qu'il y a au moins ces trois formes-là de déclassement hein, qui coexistent dans les rangs des troupes gauchistes en particulier, comme d'ailleurs on les retrouve un peu plus tard dans les rangs contre-culturels, et ça, je crois que c'est le lointain passé de beaucoup de nos chantres du néolibéralisme aujourd'hui, pas tous, hein, mais la fraction la plus inattendue d'entre eux, je dis pas ceux qui ont eu le trajet, machin, vous voyez, Énarque, Cordépon, c'est une autre variété, mais vous voyez, ils ont été rejoints par des renforts inattendus, voilà, on pourrait dire ça. Bon, ce qui est important aussi de comprendre, c'est dans ces mouvements comme ça de conversion, les gens peuvent pas dire comme ça d'un beau matin, voilà, j'étais révolutionnaire et voilà, j'ai tourné kazakh, c'est pas possible, il faut, ménager en quelque sorte des espèces de transitions mentales hein, nécessaires, discursives, pour pouvoir juste continuer à être, tout simplement. Enfin, maintenir un minimum de cohérence dans la vision qu'on a de soi, en tout cas pour les gens qu'on en a besoin, et ceux-là en ont besoin. Les intellos, ça a besoin d'avoir une vision de soi cohérente de soi.
Finalement, il y a vraiment une nécessité de cette étape intermédiaire, parce qu'on voit bien qu'entre le gauchisme et la contre-culture, il n'y a pas de solution de continuité. Mais alors, ce qui doit être plus complexe et plus curieux à analyser, c'est le passage de la contre-culture au néo libéralisme, parce que alors là...
En fait, ce que j'avais repéré plus exactement, c'était comment, à travers ces processus de reclassement à l'enseigne de la contre-culture, c'est-à-dire aussi de la réhabilitation du sujet, de l'individu, du jeu, du moi, etc., bon, de la créativité, de tout ça, comment il y avait là, au fond, des prémices structurantes de l'individualisme, au moins on pourrait dire ça, hein, des formes d'individualisme, et comment, après tout, on dérive, vous voyez, de cet individualisme culturel, en quelque sorte, à un individualisme économique qui allait de pair, vous voyez, donc c'est... Je crois crois qu'il y a là, bon, il faudrait suivre ça, mais il y a sans doute un certain nombre de textes qu'il faudrait absolument étudier, je pense, essentiel. Alors, par exemple, Minck soi-même a écrit un truc, là, à un moment, il a écrit le capitalisme de 68 heures, il faut le faire, quoi. Mais vous voyez, c'est exactement ce dont je suis en train de parler. Voilà, c'est évidemment le texte de la transition qui, au fond, vous voyez, dérive de la contre-culture, des éléments contre-culturels vers un capitalisme rénové à cette époque-là, et vous connaissez la suite. À mon avis, le fond, c'est autour de l'individualisme.
Nous arrivons au port. Au terme de ces innombrables chassés croisés où elles auraient pu se perdre, la droite et la gauche sortent pourtant indemnes. Et de plus, issues d'une histoire si particulière, l'histoire de France, au terme de son XVIIIe siècle, voici que la gauche et la droite sont devenues universelles. C'est une performance qui appelle l'explication. Marcel Gaucher.
Ben oui, parce que l'étrange, irréductible de la notion, c'est le fait que ce résumé en deux mots de ce qu'il y a d'absolument particulier dans l'histoire politique française. Aucun autre pays au monde n'a cette histoire politique et cette tradition avec ce véritable système qui se résume dans ces deux mots. Et néanmoins, ce qui aurait donc dû condamner la politique française à une singularité irrémédiable est ce qui en a fait l'exemplarité mondiale. Car petit à petit, par un processus qui est d'ailleurs assez tardif, ces notions de droite et de gauche ont migré et sont devenues des notions d'usage planétaire. Aujourd'hui, c'est plus ou moins fort, c'est plus ou moins prégnant dans le débat, mais tout le monde comprend, dans n'importe quel lieu de la planète, qu'est-ce que c'est que la droite et qu'est-ce que c'est que la gauche en politique. Alors pourquoi ce particulier français est-il devenu un universel? Je crois que c'est une véritable difficulté. Ça n'est pas simple.
Vous parvenez à la résoudre?
Écoutez, je propose une hypothèse, rien de plus, parce que, bien évidemment, la difficulté est grande. L'hypothèse que je propose est d'y voir tout simplement la résurrection dans un monde de politique démocratique, et donc, qui dit politique démocratique, dit un monde d'opposition, de clivage, d'antagonisme, de quelque chose qui ressuscite, donc, en fait, la symbolique la plus puissante que les hommes aient jamais élaborée, qui est la symbolique du corps. Parce que la droite et la gauche, fondamentalement, c'est quelque chose qui s'enracine dans le fait que nous sommes des êtres latéralisés. Nous avons une main droite et une main gauche, dont nous savons par ailleurs qu'elles ne sont pas la même et nous n'en faisons pas le même usage. Nous sommes des êtres gouvernés par cette opposition droite-gauche. Avec, pour beaucoup de gens, comme on sait, des difficultés. Les gens qui ne savent pas reconnaître leur droite et leur gauche, qui n'arrivent pas à passer leur permis de conduire à cause de ça. Donc, c'est une véritable organisation qui va à l'intime des êtres. Et l'entrée dans la politique démocratique s'est traduite par la dissolution des images corporelles de la société. On pensait la société comme un corps, tout le temps on la pensait comme unie. Le monde moderne, ce sont des sociétés divisées. Mais grâce à la droite et à la gauche, on réussit à retrouver l'unité d'un corps, qui n'est pas l'unité du corps social, mais l'unité du corps de chacun d'entre nous. Nous sommes tous, et d'ailleurs, il n'est que de voir la très abondante imagerie qui tourne autour de ça, le cœur à gauche et le portefeuille à droite. Eh bien oui, ça veut dire que l'opposition, elle ne passe pas simplement entre des gens d'avis différents, mais à l'intérieur de chacun d'entre nous est un peu à droite, un peu à gauche, en partie d'extrême droite, en partie d'extrême gauche, sur des plans très différents. Et c'est probablement à cet enracinement individuel que la notion doit une grande part de son succès.
C'était La gauche et la droite, Sœurs ennemies et Jeux brouillés.
Homme de gauche, le col roulé.
Homme de droite, la cravate.
Le sexe.
L'âme.
Les traverses.
La rectitude.
Le paradis sur terre.
L'au-delà.
Le souhaitable.
Le possible.
L'humour.
L'esprit.
Avec Jean Cassou, François Colobert, Dominique Jamais, Marcel Gaucher, Raoul Girardet, Roger Martelly, Gérard Mauger, Guy Rossilandi. Les textes et les citations lus par Judith Magre et Jacques Bonafé sont extraits de l'ouvrage de Guy Rossilandi, Le chassé-croisé, la droite et la gauche en France, de 1789 à nos jours, chez Jean-Claude Lattès. Prise de son et mixage, Marcel Lebras, Jean-François Néolier, Jean-Pierre Yinker. Une émission de Marc Riglet, réalisée par Marie-Christine Closet.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 29 février 1996.